CKRL 89.1 Québec.
Samedi 22 février 2014, c'est l'heure du grain de sable.
Le grain de sable d'Attaque Québec.
Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de sable. Mon nom est Michel Lemonnette, je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Le Grain de sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne Attaque Québec. Cette semaine, je vous présente une entrevue que j'ai eue avec Ramsey Hart de Mines Alert Canada, plus tôt en février. Ensuite, ce sera une présentation spéciale de David Maxime Sanson. Bonjour David Maxime.
Bonjour Michel.
Bienvenue au Grain de sable, David.
Merci.
De quoi allez-vous parler au juste aujourd'hui?
Ben moi, j'ai soulevé différents endroits où il y a des manifestations populaires citoyennes un peu partout dans le monde, dont on entend peu parler dans les médias de masse.
Ben on va voir ça tantôt, David Maxime.
Oui.
À tantôt. Et en deuxième partie d'émission, par la suite, Robert Jasmin nous parle de prison américaine. Une émission bien remplie, qui va débuter après ce qui suit. Cette semaine, je vous présente donc une entrevue avec Ramsey Hart de Mines Alert Canada que j'ai rencontré un peu plus tôt en février. Ramsey Hart était en tournée à Québec et il était invité par Développement Épais. Il va nous expliquer le but de sa tournée, mais sachez que la campagne qu'ils ont initiée avec Développement Épais est toujours en cours. On écoute l'entrevue. Bonjour, Monsieur Ramsey Hart.
Bonjour.
Vous êtes de Mines Alert Canada. Je lis sur votre site web que Mines Alert Canada est un organisme d'expertise conseil au service de la société civile. Je lis aussi sur votre site que votre but est de changer les politiques et les pratiques minières pour assurer la santé à la fois des individus, des communautés et aussi des écosystèmes.
C'est ça.
Comment vous y prenez-vous? Parce que c'est vaste.
Ah oui, c'est vaste. Oui. C'est un job assez large.
Oui.
Nous le faisons plusieurs façons. Premièrement, c'est une question de chercher l'information sur qu'est-ce qui se passe sous le terrain avec les compagnies minières.
On parle de terrain ailleurs.
On parle de terrain ici au Canada.
Ici au Canada, oui.
Et aussi au Québec et à l'étranger.
OK.
Nous cherchons les informations pour donner une image plus véritable que ce qu'on voit des publicités, des annonces ou des rapports de responsabilité sociale produits par les entreprises.
Parce qu'elles ont eu leur système de relations publiques, elles sont très présentes dans les médias pour essayer de faire contrepoids.
Exact. Et si on avait un gouvernement plus objectif, plus transparent, on pourrait relier avec l'information du gouvernement. Mais notre expérience, c'est que l'approchement du gouvernement avec l'industrie, s'il n'y a pas beaucoup d'espace entre les deux, donc souvent les départements du gouvernement, soit fédéral, soit provincial, soit territorial, se tombent aussi dans la promotion et pas autant dans le critique ou l'évaluation objectif.
Qu'est-ce que vous faites, vous, à Mines Alert Canada?
Mais moi, je suis responsable pour les activités ici au Canada. Donc, mes activités sont la recherche. Je cherche ce genre d'informations du terrain. J'utilise les sources d'informations existantes, mais peut-être peu connues par la population en général. Donc, les banques de données sur les polluants qui existent, mais ne sont pas très connus. Ou je cherche les statistiques de Ressources Canada pour faire une analyse de l'industrie ici au Canada. Je propose des réformes, des lois, soit pour la protection de l'environnement, soit pour l'amélioration des impacts sociaux. Donc, en Ontario, nous avons une campagne pour évaluer et augmenter les redevances, parce que
c'est un dossier qu'on connaît bien au Québec, ça.
Oui, c'est exact. Ouais. Il y a quelques années que Québec et Ontario étaient très bas, tous les deux ensemble, en termes de redevances, retombées pour la population, avec l'industrie minière. Québec a fait des améliorations. C'est peut-être ce qu'on espérait, mais
il y a encore du travail à faire en Ontario.
Oui, exact.
Okay. On va se concentrer, si vous voulez, sur les minières canadiennes à l'étranger. Mmh. On sait que les minières canadiennes sont très présentes à l'étranger. En fait, il y a beaucoup de minières qui ont décidé d'établir leur siège social au Canada pour toutes sortes de raisons. Parlez-nous du comportement des minières à l'étranger.
Le Canada, c'est la siège plus importante au monde pour ce qu'on appelle les juniors, les compagnies plus petites qui prennent plus de risques, qui cherchent le capital venture, on dit venture capital. Donc, ce genre de compagnies, souvent beaucoup moins sophistiquées dans les relations sociales, ils n'ont pas des moyens économiques d'investir dans les évaluations environnementales, dans les consultations, et ils n'ont pas beaucoup des fois, ils mettent pas beaucoup de valeur dans leur brand ou dans leur image parce que ils changent souvent. Il y a une qui arrive, puis une autre qui part. Il y a une qui est achetée par une autre. Ben, c'est très dynamique. Donc, avec cet aspect du secteur de l'industrie, on arrive à avoir beaucoup de conflits sur le terrain dans les pays partout en Amérique latine, en Philippines, en Afrique. Donc, c'est certain que Canada est responsable. Si on regarde les conflits avec l'industrie minière partout au monde, c'est certain que Canada est responsable d'une très grande partie, la majorité des conflits.
Peut-être qu'on pourrait prendre pour que les gens, pour illustrer tout ça, le cas, vous menez une campagne contre Infinito Gold. Peut-être qu'on pourrait prendre cet exemple-là. Qu'est-ce que vous reprochez à Infinito Gold?
C'est un très bon exemple de comportement des compagnies. Il y a aussi des parallèles ici au Québec. Donc, Infinito Gold voulait ouvrir une mine dans une région écosystème très sensible. On parle de Costa Rica, un pays avec une biodiversité mondialement reconnue, un hotspot de biodiversité. Aussi reconnu comme un pays qui respecte beaucoup leur environnement. Ils ont fait beaucoup de travail sur les aires protégées, l'écotourisme. C'est une grande valeur, la protection de l'environnement. Donc, depuis le début, le projet était très controversé. À la fin de la journée, le gouvernement a décidé de ne donner pas un permis pour l'exploitation de la mine aux compagnies, une mine d'or. Pour raisons diverses, la manifestation de population, les risques à l'environnement, risque de contamination d'eau. Donc, ce qui arrive après ça, c'est que la compagnie utilise les traités de libre-échange pour faire une plainte contre Costa Rica pour 1 milliard de dollars. Même si Costa Rica, c'est pas le pays plus pauvre en Amérique centrale.
Il reste que c'est une bonne chose.
Et c'est une, une quantité énorme pour un pays comme ça.
Parfait. Et donc, vous faites une campagne pour alerter l'opinion publique sur l'attitude, le comportement des
Exact. On demande à la compagnie d'arrêter la niaiserie et de respecter la décision de Costa Rica comme un État souverain.
Ouais. Vous êtes membre d'un regroupement qui s'appelle le Réseau pour la reddition de comptes des entreprises extractives. Ce regroupement réclame, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici en tournée présentement au Québec. On est à la fin du mois de janvier, au moment où on fait cette entrevue. Ce regroupement réclame un mécanisme légal d'ombudsman du secteur extractif canadien et aussi l'accès aux tribunaux du Canada pour les communautés du Sud qui ont subi des impacts socio-environnementaux. Pourquoi, commençons par le mécanisme d'ombudsman, pourquoi un tel mécanisme? Qu'est-ce que ça apporterait de plus?
Présentement, c'est très difficile des communautés ou des individus affectés par des compagnies canadiennes. C'est très difficile des fois pour eux de trouver la justice dans leur propre pays.
Parce que le système judiciaire est déficient?
D'ailleurs, dans leur propre pays, des fois, oui, beaucoup des fois. Il y a aussi beaucoup de corruption.
Ouais.
Il y a beaucoup de barrières à l'accès de justice dans les pays hôtes des compagnies minières. Donc, nous croyons, la coalition, que les personnes devraient avoir un droit à l'accès à la justice ici au Canada, où se trouve le siège des compagnies.
Oui.
Mais il y a des barrières légaux, il y a les arguments légaux qui peuvent empêcher un accès aux cours ici au Canada. Donc, on demande accès aux cours, mais aussi l'ombudsman dans les cas qui sont pas peut-être... où il y a peut-être une possibilité d'une
résolution
avec la médiation
oui.
ou qui sont pas peut-être si juridiques, l'ombudsman peuvent jouer un rôle important de éliminer les conflits ou solutionner les conflits.
Oui. Dans le cas de l'accès aux tribunaux, moi j'ai cru comprendre que les entreprises canadiennes sont quand même tenues de respecter le droit international et que les gens de d'autres pays peuvent poursuivre une entreprise canadienne même dans les tribunaux sur les tribunaux canadiens. C'est pas vraiment, je comprends mal.
Ils peuvent poursuivre les plaintes dans les cours internationaux, mais les cours internationaux sont très faibles. On a eu une expérience avec la mine Marlin de Goldcorp, compagnie
oui,
canadienne,
oui.
qui a une mine ici au Québec. Il y avait une décision de cour interaméricain que la mine devrait fermer autant qu'il trouve une solution à certains conflits avec les communautés autour. Et la décision n'était jamais respectée. Donc, les cours internationales manquent des moyens de renforcer,
de faire appliquer
leurs décisions. Exact.
Ouais.
Ici au Canada, nous croyons que les décisions de cours vont être plus respectées parce qu'il y a des moyens directs d'appliquer les décisions.
Oui. On en parlait tantôt avant d'entrer en onde. Au fond, c'est que le système judiciaire international est faible.
C'est ça.
C'est
faible à
non existence. Plein de zones grises
où
les entreprises, comme vous dites, qui ont moins de pour qui ça compte moins l'image ou le brand, la marque, elles peuvent jouer sur.
Et aussi les grandes compagnies jouent le boss aussi. La même Goldcorp, c'est une des compagnies plus grandes du Canada, joue un game de PR pour protéger son image, mais il se trouve dans les pays comme Guatemala, comme Honduras, en Amérique centrale, aussi en Amérique du Sud. Donc, et leur projet plus payant avec les profits plus grands, c'est le projet de Guatemala.
Oui. Est-ce que est-ce que vous avez l'impression que ça avance? Est-ce que vous avez l'impression que ça donne quelque chose, qu'avec les années, il y a des choses qui s'améliorent et qu'on va éventuellement avoir une situation plus juste?
Des fois, c'est difficile à voir, surtout dans la région comme les Philippines ou Amérique latine, où il y a des mondes qui sont assassinés, il y a des femmes qui sont violées, des choses extrêmement graves et tristes qui arrivent. Des fois, c'est difficile de voir si ça vaut la peine, le travail que nous faisons. Mais si tu regardes avec une vision un peu plus historique ou un peu plus longue, on voit ici au Canada, on a fait des avances importantes. Par exemple, depuis les années 90, et même plus récemment ici au Québec, les mines maintenant peuvent pas ouvrir sans avoir une assurance qui vont fermer la mine
correctement.
Ouais. Il faut payer une assurance économique, financière, pour que on a la confiance que
donc les choses avancent.
Les choses avancent peu à peu.
Dernière question parce que le temps file.
Sure.
On pourrait en parler. On aurait beaucoup de choses à dire effectivement. Mais revenons à l'aspect plus québécois. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle loi québécoise sur les mines?
Comme je viens de dire, c'est un avancement. Le fait que maintenant au Québec, comme d'ailleurs au Canada, les compagnies doivent payer une assurance pour la restauration d'une site minière au complet. Ça, c'est une des améliorations importantes. Et il y avait aussi des améliorations pour les droits des municipalités de diriger le développement minier. Aussi
de protéger leur eau potable, des choses comme
ça. C'est ça, les zones récréatives, les zones d'urbanisation. Ça, c'est beaucoup moins à risque maintenant de l'exploration et développement minier. La lacune qui existe encore est un aspect où Québec est beaucoup, beaucoup en arrière des normes internationales, aussi des normes constitutionnelles canadiennes, c'est les relations avec les Autochtones.
Ah oui?
Ils ont mis quelques lignes dans la nouvelle loi, mais c'est très général, ça manque la précision de vraiment solutionner les conflits sur la consultation, accommodation et consentement des peuples autochtones.
Bien, merci beaucoup, Ramsey Hart. Vous êtes, responsable des programmes Mines Alert Canada. La campagne sur l'Ombudsman se poursuit jusqu'en mai, si j'ai bien compris.
C'est ça, puis on invite les personnes à la CUT d'aller à le site web de développement EP. Là, vous trouverez plus d'informations sur la campagne, aussi des cartes vous pouvez signer et une pétition en ligne que vous pouvez signer.
Bien, merci beaucoup. On mettra des liens sur notre blog, du Grain de Sable d'Attaque Québec.
Voilà.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Un Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en plein, des pays étrangers, parcourait en plein, des pays étrangers. Un jour triste et pensif, assise au bord des flots, au courant fugitif, il adressa ses mots, au courant fugitif, il adressa ses mots. Mon pays malheureux, va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Va pas dire à mes amis que je me souviens d'eux. Pas dire à mes amis que je me souviens d'eux.
Christine Fellows, une très belle interprétation d'un chant qui nous rappelle les patriotes de 1837-38, un Canadien errant. On a parfois l'impression que les droits humains pour les compagnies minières, en tout cas pour certaines compagnies minières, sont errants à travers le monde, n'est-ce pas, David Maxime?
Oui.
Malheureusement. Et là, parlant de droits humains et parlant de liberté, on va faire le tour, une espèce de tour du monde rapide. Et il y a certains endroits dont on entend moins parler, si j'ai bien compris, c'est ça?
Oui, en fait, j'aurais pu faire un lien avec une minière canadienne qui s'est installée en Grèce.
Ah oui.
Et qui a suspendu ses activités pour le moment parce que c'est pas assez rentable, mais ils ont détruit une partie de la forêt des Scouris, qui est une forêt historique en Grèce.
Ah ouais.
Mais je me suis pas préparé pour ça. Alors on va parler d'autres choses.
C'est ça. Il y a des pays quand même là. On sait que ça brasse beaucoup en Ukraine entre autres.
Oui.
Et on va pas vraiment aborder ces pays.
Mais en fait, Ukraine, Venezuela, surtout à Caracas et à Kiev,
c'est vrai, c'est des sujets
un peu très médiatisés ces temps-ci et très complexes. Alors, je propose qu'on...
On aille plutôt vers des endroits qui sont moins médiatisés.
Oui, des trucs dont on parle beaucoup moins.
Allons-y pour ce tour du monde.
Oui. Alors, situation en Égypte. Ouais. Je vous fais déjà un éventail de ce qui se passe.
Ouais.
Égypte, Tunisie. Des fois, c'est juste un retour sur ce qui se passe, parce qu'on sait qu'elle s'est brassée aussi en Tunisie.
Ouais.
Espagne, Italie, Grèce, Turquie, Portugal, Brésil, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Bahreïn et Thaïlande. Alors, en Égypte, présentement, le climat est relativement tendu. On sait qu'il y a eu un coup d'état militaire par le général Al-Sisi, qui était le ministre de la Défense.
Qui se présente aux élections présidentielles.
Oui, exact, qui a été reporté fin mars pour les présidentielles. Parce qu'il y a des problèmes présentement. Il y a, premièrement, ils ont arrêté 20 journalistes du canal Al Jazeera. Là, il y a toute une période judiciaire à respecter quelque part. Ils se lanceront pas en campagne électorale pendant ce temps-là. Mais où il y a aussi des troubles présentement dans le Sinaï avec des bédouins affiliés, selon eux, à Al-Qaïda.
Okay.
Donc, ils vont...
Donc, en Égypte, c'est...
Ça brasse. Pour ce qui est de la société civile en Égypte, c'est presque impossible de tenir une manifestation.
Ah ouais.
Il y a une répression grandissante et systématique envers les groupes sociaux, qui soient pro-laïques, pro-démocratie, même pas juste du côté des frères musulmans, mais aussi de la société civile. Ça va pas très bien de ce côté-là, mais le général Al-Sisi est backé par les États-Unis, l'Europe aussi, et même la Russie.
Et même la Russie, oui, effectivement.
Ouais, c'est ça.
Ensuite?
Tunisie, présentement, ils sont en période de transition. Ils viennent d'adopter une constitution plus laïque que islamique.
Mm-hmm.
Il y a quand même une ébullition sociale constante. Il y a encore une manifestation de chauffeurs de taxi, je crois, prévue aujourd'hui ou demain. Mais ça va relativement bien. Il y a un compromis social qui est intéressant, là.
Bon, ça, c'est encourageant.
Oui, assez. Ouais. Assez. Pour ce qui est de l'Espagne, là aussi, il y a une ébullition sociale relativement constante depuis 2011. Ça a pas changé. Il s'agit à chaque fois qu'il y a une étincelle pour que ça brasse. Tout récemment, il y a eu une histoire dans une ville du nord de l'Espagne, je crois, reliée à un stationnement. Les gens se sont soulevés, ils se sont dit, on se fera pas avoir à payer un stationnement payant quand on en a un public gratuit. Et puis, ça a eu écho un peu partout en Espagne et il y a eu des mouvements de solidarité partout dans le pays. Plus récemment encore, il y a eu un squat à Barcelone, qui est un centre culturel et social autogéré, avec des artistes en résidence, qui s'appelait La Carbo, qui a été vidé. Les policiers sont intervenus pour expulser les gens qui étaient à l'intérieur et qui habitaient ou qui se produisaient là en spectacle.
Donc, il y a encore des tensions en Espagne?
Oui, oui. Ben, en plus, il y a eu une loi pour limiter le droit à l'avortement récemment. Ça a brassé aussi. Ouais. Il y a une grande manif de prévue pour le 22 mai, une grande manifestation nationale à Madrid.
Le 22 mai.
Avec des transports.
Ensuite, l'autre pays.
L'autre pays. Tu me fais aller plus vite, merci.
Oui, ouais, c'est ça, mais c'est un tour du monde assez rapide. On va revenir plus en profondeur éventuellement.
Oui, en Italie, on sait que ça avait brassé beaucoup avec les Indignados, qui étaient l'écho des Indignados espagnols et le mouvement Occupy. Présentement, ils sont dans l'installation d'un nouveau gouvernement. Le président a 39 ans, il est jeune, mais il a l'air à faire pas mal son bout de chemin et à rejoindre pas mal de plusieurs partis. Uh-huh. Donc l'attention est centrée là-dessus et j'ai l'impression que on lui donne une chance.
Okay. Okay.
On verra,
okay.
Mais pour le moment, il n'y a pas trop
c'est plus tranquille.
Ça brasse pas beaucoup. Ouais. Ça se passe dans les personnalités politiques.
Okay.
Puis il y en a un qui représente pas mal bien l'opposition. Plus de terrain, là, les militants, puis la société civile, donc...
Ça, c'est important.
Ça se passe.
Quand les gens ont l'impression d'être entendus à leur parlement, ça aide.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas en Ukraine.
C'est un ancien... c'était un candidat au présidentiel.
OK.
Ça fait que... Il y a beaucoup d'attention médiatique, donc...
Pas pire pour l'Italie.
Oui, ça va bien. Pour la Grèce... c'est un peu dur à dire pour la Grèce parce que là aussi, ça s'est calmé.
Mm-hmm.
Économiquement parlant, ça va pas mal mieux. Ils sont rendus à demander un troisième plan d'aide à l'Union européenne et aux grandes banques européennes.
Ouais.
Quand on parle de ça, ça veut dire les banques allemandes surtout.
Ouais.
Mais il y a quand même eu une manifestation mardi dernier, le 18 février, et une autre le lendemain, le 19 février. Et je me souviens, le 18, mardi, la place Syntagma, qui est au centre d'Athènes, a été complètement bouclée.
Bon.
Donc, il n'y a même pas eu de manifestation vraiment. Il a fallu que les manifestants improvisent une marche.
Bon, ça rappelle certaines... tactique policière ici au Québec.
Oui. Mais en fait, ça s'est passé aussi ce matin à Nantes, en Bretagne.
Bon.
Ils ont carrément bouclé les lieux. Et ça a dégénéré, par exemple.
Okay. Après la Grèce?
Après la Grèce. En Turquie, la répression continue.
Ouais.
Puis en plus, le gouvernement islamiste Recep Tayyip Erdogan prend de plus en plus de place. On se souvient, il n'y a pas trop longtemps, il y a eu une loi concernant la mixité dans les logements qui s'attaquait surtout aux étudiants qui partageaient des logements, un homme et une femme. Mm. Donc, plus le droit de faire ça. Tout récemment, il y a eu une loi sur le contrôle d'Internet. Là aussi, il y a eu beaucoup de manifestations.
Je vais devoir vous bousculer, David Maxime, parce que le temps file vraiment vite. Donc, en Grèce, il y a des manifestations actuellement.
Ça continue. En Turquie, ça continue.
Il y a d'autres pays dont vous vouliez nous parler, peut-être très, très rapidement.
Portugal, Brésil, Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas longtemps. Ça, c'est à surveiller parce que ça brasse.
Ça brasse beaucoup.
Et le gouvernement... se montrent même pas intéressés à écouter.
Okay.
Kosovo, c'est les étudiants qui ont brassé et traditionnellement, c'était le chef de file d'un mouvement plus large au Kosovo.
Okay. Donc, ça annonce peut-être quelque
chose. Oui, c'est ça. Puis au Bahreïn, ça fait 3 ans depuis le 14 février dernier, ça a fait 3 ans qu'ils avaient commencé, la majorité sunnite plus pauvre du pays, à avoir un mouvement de contestation. Et... presque tous les jours depuis le début,
il y a des manifestations
au Bahreïn et c'est souvent répondu par la force des armes et les balles à tirer réelles.
Ben merci beaucoup, David Maxime. Ça nous donne plein d'endroits à surveiller à travers le monde. C'est sûr que les médias traditionnels, hélas, ne vont pas dans... nous donnent très peu d'informations sur ce qui se passe. Alors,
des fois, ils ne peuvent pas non plus.
Ils peuvent toujours suivre votre fil Twitter,
oui.
David Maxime. C'est DMAX, sans ça?
Oui, exactement. DMAX-SAMSON.
Voilà.
Sur Twitter.
Et aussi, vous avez une page sur Rebel Mosque, qui est un endroit intéressant à visiter en passant. Mais par le biais de votre fil Twitter, les gens peuvent s'y rendre. Merci, à une prochaine.
Fait plaisir.
Au revoir. On s'en va à la pause.
89.1.
Vous écoutez CKRL 89.1. Cultive tes goûts.
Papa, on s'est dépeint, démaquillé. On a mis du fort sous nos joues. On s'est éteint, déraciné. On a mis du soir sur nos joues. On s'est soumis, on a plié. On a mis le mort à nos bouches. On s'est pourri et baïonné. On a mis la mort à nos
Faites un don pré-radioton de 20$ et plus ou achetez dès maintenant votre carte de membre de CKRL au coût de 25$ avant le vendredi 4 avril 17h et vous pourriez gagner le prix pré-radioton ou le prix membership d'une valeur de 150$. Adhérez ou faites un don en téléphonant au 88 640 2575 ou en ligne sur ckrl.qc.ca ou bien venez au 405 3e avenue à Limoilou. Encouragez votre radio préférée.
Soyez au fait des sorties cinéma et DVD à Québec. Écoutez chaque jeudi matin à l'émission Les Matins éphémères, les critiques et suggestions des nouveautés cinématographiques avec Pierre Blais. Cette chronique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici, d'ailleurs et bien plus.
En février, ne manquez pas les événements ponctuels du cinéma Le Clap. Le 2 février, le programme Kino Québec et l'Opéra National de Paris, Aïda. Le 19 février, les aventuriers voyageurs, le tour du monde. Et le 23 février, l'Opéra National de Paris, Ipuritani. Et ne manquez pas, à partir du 28 février, la 3e édition du Festival de cinéma pour enfants de Québec au CLAP. Abonnez-vous à notre page Facebook pour surveiller la programmation.
Pour plus d'informations et les horaires complets, rendez-vous au clap.ca.
Du 5 février au 2 mars, c'est la 15e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 27 journées de festivités. Spectacles multidisciplinaires, performances sonores et lumineuses, danse, art électronique, installations robotiques, sonores et interactives, cabaret multi et bien plus. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 5 février au 2 mars, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. moimulti.org.
Vous possédez une carte de membre de CKRL?
Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat chez Seb's Tea et Lounge au 67 René Lévesque Est.
La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
Laisse rouler.
Mais que ferez-vous de moi? Mais que ferez-vous de moi après le coup?
Nous sommes de retour. Vous écoutez le grain de sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web www.ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Bonjour, Robert.
Bonjour.
Bonjour. On se parle au téléphone cette semaine. Robert, vous connaissez le radioton de CKRL?
Oui, depuis plusieurs années.
Oui, depuis plusieurs années. Je vais en dire un tout petit mot, parce que ça s'en vient, là, ça s'en vient. On est en route vers le Radioton 2014. C'est les 4, 5 et 6 avril cette année, et on sollicite l'appui de nos auditeurs par un don pré-Radioton ou en renouvelant leur carte de membre. C'est CKRL tourné vers l'avenir, et encore aujourd'hui, votre soutien au 89.1 demeure essentiel. Donc, les gens peuvent faire soit un don pré-Radioton de 20$ et plus, ou soit une relance du membership, ce qui est à 25$, ce qui est quand même pas cher pour une carte de membre, 25$, n'est-ce pas? Alors, posez votre geste de soutien avant le 4 avril et courez la chance de gagner le prix spécial don pré-Radioton et le prix spécial membership. Les tirages ont lieu le 4 avril à 17h. Tous les membres actifs à cette date sont éligibles pour le prix membership. Et les gens, pour se rendre, ils vont simplement sur le site web. Il y a une façon PayPal de payer, là, ckrl.qc.ca, ou ils appellent au 418-640-CKRL pour un paiement par Visa. Bon, alors, Robert, cette semaine, on parle de quelque chose qui est quand même pas très, très agréable, pas très jeune, pas très beau, c'est le taux d'incarcération, le phénomène, le système de prison et le taux d'incarcération aux États-Unis. En quoi la question du système d'incarcération peut-elle être reliée aux questions économiques, sociales que nous abordons ici à l'émission?
Mais en fait, quand on examine la structure de tout ce système-là, on réalise qu'on est en face d'un microcosme néolibéral. C'est-à-dire que, en plus du taux d'incarcération, de loin, on va le voir plus loin, de loin le plus élevé dans le monde, l'économie même du système découle de la mise en pratique du néolibéralisme. Et ça, ça se manifeste de deux manières. Premièrement, si on veut le dire directement, on peut affirmer là, qu'aux États-Unis, on met les pauvres en prison. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la guerre à la pauvreté, on fait la guerre aux pauvres. En mots plus subtils, on peut dire que le phénomène qui est purement américain de ce taux supérieur d'incarcération, anormalement supérieur aux autres sociétés, aux autres pays, c'est directement relié au taux de pauvreté qui est très élevé et à la baisse des services publics. Les deux phénomènes sont un produit du néolibéralisme, la pauvreté et la baisse des services publics. Maintenant, ça, c'est la première manière de se manifester. La deuxième, et on va le voir, c'est la privatisation grandissante du système pénitentiaire et qui ne peut déboucher que sur un taux croissant d'incarcération.
Prenons les deux points l'un après l'autre. La croissance phénoménale des inégalités aux États-Unis. D'ailleurs, dans le Devoir de mardi de cette semaine, il y a Lord Turner, l'ancien patron de l'Autorité des marchés financiers, qui présentait ces inégalités comme une bombe à retardement pour le système économique, rien de moins. Cette croissance des inégalités a fait exploser le nombre de pauvres aux États-Unis. On peut présumer, si je vous comprends bien, que la pauvreté extrême peut faire augmenter le taux de la petite criminalité?
Oui, mais c'est vrai. Mais la petite criminalité, comme le vol à l'étalage, par exemple, ouais. Ça devrait pas, dans un pays civilisé, ça devrait pas aboutir automatiquement à l'incarcération, comme c'est le cas aux États-Unis. Et si on peut citer le cas extrême de la Californie, suite à un référendum, les juges en Californie sont obligés d'appliquer une loi aux conséquences qui sont effroyables. Si vous êtes reconnu coupable d'un troisième vol à l'étalage, une troisième infraction, là, vous écopez de la prison à vie.
C'est énorme.
Ailleurs, les mêmes petits larcins ou les mêmes petites infractions auraient valu à leur hauteur une amende ou pire. Au pire, en fait, une peine dans la communauté.
Oui, ça me semble tout à fait disproportionné.
Je pense qu'on peut même pas parler de proportion, là. En fait, les criminologues disent que l'augmentation du taux effarant d'incarcération ne peut s'expliquer par le taux de criminalité, parce que le taux de criminalité reste relativement stable, puis dans certains cas, il est à la baisse. Alors, si c'est pas relié au taux de criminalité, on peut affirmer que la hausse du taux de pauvreté peut expliquer en partie l'augmentation du taux d'incarcération.
Mais si je comprends bien, il y a aussi un lien avec la baisse des services sociaux publics.
Oui, mais dans la mesure où les pauvres sont laissés à eux-mêmes de plus en plus, et ça, c'est tant le fédéral que les États qui ont fait des coupes budgétaires suite aux baisses de revenus des gouvernements depuis 30 ans. Les néolibéraux ont veillé à toujours réduire le fardeau fiscal des plus riches et des grandes corporations de façon tellement systématique qu'ils ont réduit la capacité des gouvernements de maintenir les services même aux plus démunis.
Revenons au taux d'incarcération. Tu disais que c'était le plus haut taux au monde.
Oui, alors ça, c'est reconnu par les Nations Unies partout. C'est la grande surprise à chaque fois qu'on parle des États-Unis. Puis de loin, le plus haut taux. Évidemment, on parle au prorata de la population. Donc, ça vaut la peine d'illustrer par des chiffres. Puis j'ai trouvé un document de Human Rights Watch en 2011 qui dit « Les États-Unis restent le pays affichant à la fois la population carcérale la plus élevée au monde, avec 2,3 millions de prisonniers et le taux d'incarcération par habitant le plus élevé au monde avec 752 prisonniers pour 100 000 habitants. On a juste à penser, là, une ville de 100 000 habitants, là, c'est même pas la ville de Laval, c'est l'ancien Sainte-Foy, là.
Oui. Hein? Oui.
Et 752 prisonniers. Cette proportion monte à 3 500 pour 100 000 chez les Afro-Américains, soit plus de 5 fois plus. Et chez les jeunes hommes Afro-Américains de 20 à 35 ans, 40 % ont plus de chances de se trouver en prison qu'au travail. On imagine là l'effet indirect, les conséquences sur les jeunes familles. Enlever le gagne-pain là, d'un jeune homme à la tête d'une jeune famille. Et là, on embarque dans le cercle vicieux là, de la pauvreté, c'est-à-dire incarcération à cause de la pauvreté qui crée de la pauvreté.
Oui.
Mais la pauvreté est aussi un facteur indirect d'incarcération. Puis je vais vous donner un exemple. C'est toujours Human Rights Watch qui a rendu compte du fait que des millions de personnes accusées de délits mineurs à New York étaient inutilement détenues préalablement à leur procès. Là, il faut voir, là, c'est même, ils n'ont même pas été reconnus coupables de quoi que ce soit, là, en raison de leur incapacité à s'acquitter de leur caution. Même lorsque la caution, c'était une somme infime. Près de 90 % des personnes arrêtées en 2008 pour des infractions simples, là, on parle même de grillés à feu rouge, là, et dont la caution avait été fixée à 1 000 ou moins, 90 % étaient incarcérés avant leur procès pour la seule raison qu'elles ne pouvaient verser leur caution. Alors, le lien entre la pauvreté et l'incarcération est ici là, vraiment plus qu'évident, là.
Oui, ça, c'est dans l'État de New York.
Oui.
On imagine que ça doit être pire dans les États pauvres du Sud.
Effectivement. Puis une des façons de mesurer l'ampleur de la pauvreté dans une population, c'est de la considérer chez les enfants. Alors, dans des États comme la Louisiane, l'Arkansas, le Nouveau-Mexique, puis en passant, on peut dire que c'est les trois États les plus religieux des États-Unis.
Ouais.
C'est assez paradoxal. Le taux de pauvreté oscille autour de 30 %. C'est-à-dire près d'un enfant sur trois vit dans la pauvreté. Si on prend le Mississippi, la situation est encore pire. 34 % des enfants vivent dans la pauvreté et 20 % dans une pauvreté qualifiée d'extrême. Ça veut dire que ce sont des enfants qui souffrent de la faim. C'est pas juste la pauvreté, là, c'est la faim tout court. Et cet État est reconnu aujourd'hui comme celui dont les politiques puis les conditions sociales conduisent les enfants dans le système judiciaire.
Ça se manifeste comment, ça?
Ben, juste un exemple. Le département de la justice fédérale a été obligé d'intervenir puis engager des poursuites contre un comté du Mississippi qui emprisonnait des enfants pour des infractions tels que des retards à l'école ou même aller aux toilettes sans permission.
Robert, on va faire une pause musicale. On va écouter Johnny Cash, puis on va revenir après sur le lien entre cette privatisation et cette montée, ce taux est très élevé d'emprisonnement et la privatisation des prisons.
Excellent.
Tantôt.
My bills are all due and the babies need shoes, but I'm busted. Cotton is down to a quarter a pound and I'm busted. I got a cow that went dry and a hen that won't lay. A big stack of bills that get bigger each day. The county will haul my belongings away. I'm busted.
I went to my brother to ask for a loan. I was busted. I hate to beg like a dog for a bone, but I'm busted. My brother said there ain't a thing I can do. My wife and my kids are all down with the flu. And I was just thinking of calling on you. I'm busted.
Ah, Johnny Cash, I'm busted. Robert, donc on poursuit on en était à la question du système carcéral de privatisé aux États-Unis. À quand remonte cette implantation de prisons privées?
Les premières ont vu le jour en 1980. Curieux parce que 1980, c'est quand même la naissance officielle du néolibéralisme avec l'arrivée au pouvoir de Thatcher en Angleterre puis Reagan aux États-Unis. Oui. Mais on peut dire que ces prisons privées ont pris leur essor à partir des années 90 surtout. Et en 20 ans, la corporation la plus importante, la sinistre Correction Corporation of America, a vu son chiffre d'affaires croître de 500% en 20 ans.
Avec un nom comme ça, on peut dire sinistre, en effet, quand on commence par Corrections.
Ouais. Et on peut dire que il y a six grandes corporations qui partagent des produits faramineux sur la misère humaine. Puis, on peut noter en passant que 66% des détenus des prisons privées sont issus des minorités raciales. C'est-à-dire que bien au-delà de la représentation dans la population en général. Alors, il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est qu'on peut soupçonner que derrière ces prisons privées, il y a aussi une démarche qui est purement raciste. Là.
Ouais. Parlons d'abord des profits. On pourrait nous opposer que les prisons étant privées, elles doivent faire des profits. C'est le but de toute entreprise privée, non?
Oui. Et c'est ce qui est plutôt aberrant quand il s'agit de prison. Dans un pays civilisé, le but recherché en matière de criminalité, c'est de diminuer la population carcérale. Et on imagine qu'une baisse de la criminalité a comme conséquence directe une baisse des incarcérations. Mais si vous êtes une entreprise privée, une baisse des incarcérations, c'est une mauvaise nouvelle. Ça signifie une baisse des profits et aucun entrepreneur ne cherche à abaisser ses profits. Alors, pour faire de son entreprise un succès, il faut maintenir un fort taux d'incarcération.
Vous me faites songer, je vais ouvrir une petite parenthèse, soudain qu'on on pourrait faire la même équation avec les hôpitaux privés aux États-Unis, enfin bon. Peut-être
oui, ben,
c'est
la ça.
Population
c'est, en
malade,
fait,
effectivement, pour
faire des profits sur le malheur des gens.
Oui, avec une progression de 500% du chiffre d'affaires, on peut imaginer que les profits étaient au rendez-vous.
En fait, les dirigeants de ces corporations, que je qualifie des filous sans morale, là, ont tout prévu. Dans les contrats qui lient les corporations qui possèdent des prisons privées, dans les contrats qui les lient à l'État, ils ont prévu une clause d'occupation qui prévoit que l'État doive maintenir à tout moment les prisons remplies à 90%. Que la criminalité soit en baisse ou en hausse, peu importe, c'est un engagement contractuel de l'État de remplir les prisons à 90%. En Arizona, c'est encore pire, l'État s'oblige à remplir les prisons à 100%. Alors, aussitôt qu'il y a une prison privée qui se construit quelque part, il y a un contrat qui est signé avec l'État et l'État s'engage à les remplir à 100%. Et si l'État ne réussit pas à remplir les prisons privées, dans le contrat, il est prévu qu'elles doivent verser une amende ou une taxe à l'entreprise. Donc, les contribuables de ces États, les payeurs de taxes, sont pénalisés d'une façon ou de l'autre. C'est-à-dire, ou bien on prend de l'argent public pour payer les amendes ou la taxe prévue au contrat, ou bien l'État cherche à remplir vraiment les prisons de la façon suivante. Ils dégarnissent les prisons publiques pour remplir les prisons privées, mais les prisons publiques, les contribuables continuent à payer pour ces prisons-là.
Donc, il y a un lien direct entre le taux d'incarcération efférent et la privatisation des prisons?
Tout à fait. Là, je veux dire, il n'y a aucun lien là-dedans. Si on regarde sur Internet, là, toutes les recherches internationales qui ont été faites sur le phénomène des prisons privées, ça donne toujours un taux d'incarcération qui s'élève. Mais, en plus de ça, et c'est pas juste le phénomène lui-même, là, c'est que derrière ça, il y a un phénomène de collusion puis de corruption qui ont amplifié le problème. Par exemple, les entreprises pénitentiaires privées ont fait du lobbying, ont favorisé l'adoption de lois sur la loi en Californie. Three Strike Law, c'est-à-dire trois prises, là, puis vous êtes en prison pour la vie, même si vous êtes un petit délinquant. Et une autre loi qui a été passée, c'est dans plusieurs États, c'est ce qu'ils appellent les Truth-in Sentencing Law, c'est-à-dire des lois qui prévoient des peines incompressibles. C'est-à-dire qu'autrefois, un juge pouvait apprécier le crime et dire s'il était plus ou moins important et donner des peines en conséquence. Mais là, il y a des lois qui viennent d'être passées, puis au Canada, c'était la même chose.
Oui, c'est la même chose, c'est ce que j'allais dire. Oui.
C'est ça. Oui. Et ça, c'est sans compter la corruption de juges qui sont élus.
Ah oui, vous avez un exemple, d'ailleurs, je crois.
Oui. Le cas le plus grave que j'ai trouvé de corruption a été découvert en Pennsylvanie, où deux juges ont été trouvés coupables de vendre des enfants à des entreprises qui géraient des prisons privées. C'est-à-dire qu'en échange de pots de vin importants, ces deux juges-là étaient millionnaires, là. Des milliers d'enfants ont reçu des peines de prison pour des fautes des peines de prison là, complètement démentielles, là, pour des fautes comme parler trop fort en classe ou répondre à un prof. On imagine derrière ça la chaîne de corruption entre les policiers, les procureurs publics, qui sont aussi élus et susceptibles d'être achetés dans un pays où il n'y a pas de limite pour les dépenses électorales. Et pas juste les policiers, les procureurs, mais les juges.
Les juges aussi. En conclusion, on peut dire qu'il est aberrant qu'un système de justice soit soumis aux lois du marché. C'est un peu ce qu'on conclut, où les détenus sont considérés comme de vulgaires marchandises de la matière première. Mais n'est-ce pas sur cette voie que le gouvernement Harper s'est un peu engagé?
Oui, moi je ne savais pas que, mais avec des recherches, j'ai vu qu'il y avait déjà deux prisons privées au Canada, une en Ontario, une au Nouveau-Brunswick. Puis avec, quand on pense aux législations qu'Harper a fait passer sur des peines minimales obligatoires imposées aux juges, mm-hmm. on voit que c'est exactement les mêmes mécanismes qui sont en train de se développer au Canada. Et j'ai appris aussi que les deux plus grandes corporations américaines font du lobbying constant auprès des élus conservateurs pour multiplier les prisons privées au Canada.
Robert, je suis avec David Maxime. J'ai envie de lui demander ce qu'il pense de tout ça. C'est quand même David Maxime. Quand tu entends ça, toi...
Oui, mais c'est pas de grandes nouvelles pour moi. C'est des choses que je sais depuis un bon bout de temps, notamment avec le mouvement Occupy. Là, on est très réseautés. Là.
OK.
Puis encore récemment... récemment, il y a quelques mois, il y avait Tim DeChristopher, qui est un activiste environnementaliste aux États-Unis, qui donnait une entrevue à David Letterman et qui expliquait que lui a passé 21 mois en prison parce qu'il a il a fait une fausse représentation dans un encamp où il vantait des terres fédérales d'un parc.
Il a été emprisonné pour ça.
Il est emprisonné pour ça.
Je me souviens de ce cas-là. Il avait offert un montant. Il faisait monter les enchères, puis c'est lui qui emportait le tout. Mais après ça, il payait pas. Là,
oui, exactement. Exactement. Mais ce qui est arrivé, c'est que David Letterman lui a demandé, mais en prison, il a tué plein de criminels, psychopathes, puis tout ça. Il dit non, avec toutes les prisons privées, il y a tellement de monde en prison, là, c'est tout du monde normal.
Eh bien, ben, là-dessus, on va se laisser. Robert, merci beaucoup pour ce que vous nous avez révélé aujourd'hui. C'est troublant, mais il faut que les gens le sachent. Et il faut surtout que les gens sachent qu'il y a des choses qui s'en viennent ici au Canada. Il ne faudrait pas qu'on en vienne à ce genre de situation.
Absolument.
Merci, Robert.
Merci, au revoir.
Oui, en effet, David Maxime, c'est tout à fait troublant ce genre de situation. On va écouter une chanson. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez vu passer ce clip, ce vidéo sur YouTube. C'est une chanson de Gilbert Bécaud, Nathalie, qui a été reprise par un groupe russe qui s'appelle NDN, dont j'oublie le nom. Et il y a Sonia Carrière qui fait la voix. Et c'est une chanson qui circule actuellement un peu partout là, dans les réseaux sociaux. Et l'objectif de cette chanson, c'est de récolter des sous pour venir, pour aider les gens qui sont aux prises avec l'homophobie en Russie. On va écouter ça. Ça s'appelle Nathalie. C'est une version, disons, un remake. J'ose pas dire remixé, c'est pas vraiment remixé, là, mais c'est une chanson, une réinterprétation d'un grand classique de Gilbert Bécaud.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom en guide. Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait. Je suis pas ce froid dimanche. Rouge était vide. J'ai pris son bras et la souris. Il avait les cheveux blancs, mon guide. Nathalie, Nathalie.
Voilà, c'est ainsi que s'achève l'émission. Merci à Ramsey Hart de Mainz Alert Canada. Merci David Maxime. À une prochaine.
Plaisir.
Merci aussi à Robert Jasmin. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca, ainsi que sur notre blog, legrainsableqc.wordpress.com, où vous trouvez les archives audio du Grain de Sable. Nous avons aussi une page Facebook, cherchez-y Le Grain de Sable sur CKRL, ainsi qu'un compte Twitter, @graindesableqc. Vous pouvez de plus nous joindre par courriel à l'adresse suivante, legrainsableqc@yahoo.com. Vous disposez donc de plusieurs possibilités pour nous faire part de vos commentaires, suggestions, opinions. Ça nous fera grandement plaisir de vous lire. On se retrouve samedi prochain à compter de 13h pour une nouvelle édition du Grain de Sable d'Attaque Québec. D'ici là, je vous souhaite de passer une belle semaine. Demeurez avec nous pour l'émission qui suit les JIC contre-attaque sur les ondes de CKRL 89.1. La radio qui cultive vos goûts. Au revoir, bonne semaine.